Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. Ce trimestre, nous avons parlé des notions de liberté, égalité et fraternité. Je vous propose d'écouter tout de suite une émission animée par Jean-Christophe Blancan sur le thème des élections municipales. Vous entendrez deux maires sortants, Claude Arnato, maire de Montussan, et Jean-Marie Darmian, maire de Créon, qui parleront des missions des maires. Très bonne écoute sur Eau de Radio.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on retrouve comme tous les mois notre émission Les Cadres Médias. Voilà, on prend un sujet en actualité, on l'a soumis à Cadres Médias. Les Cadres Médias avec Joël Aubert pour Acquis.fr. Bonsoir Joël.
Bonsoir Jean-Christophe.
Hugo Hamès pour Le Courrier de Gironde. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Jacques Brunet pour L'Écho des Collines. Jacques.
Bonsoir.
Voilà, et puis Eau de Radio. Donc, et ce soir, nous avons décidé de vous parler de la fonction de maire. Évidemment, par rapport aux élections municipales qui se profilent le mois prochain, et nous avons invité sur ce plateau deux maires sortants. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Darmian, donc enseignant, écrivain, homme politique, maire évidemment de Créon. Et Créon faisant partie de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Claude Arnato, maire de Montussan faisant partie de la communauté des communes du secteur de Saint-Loubès. Et Claude Arnato étant retraité de la communauté urbaine de Bordeaux. Voilà. Et tous les deux, d'ailleurs, nous avons pu voir ça juste quelques minutes avant cette émission, Jean-Marie Darmian et Claude Arnato étant tous les deux vice-présidents du pays d'Entre-deux-Mers. Donc messieurs, avec vous, effectivement, on va essayer de revenir sur ces élections municipales qui se profilent, et notamment l'échange par rapport aux modalités de scrutin, mais on reviendra évidemment sur de nombreuses choses, notamment les fonctions du maire et bien sûr les relations avec l'intercommunalité et notamment les comités de communes qui vous correspondent. Alors, chaque commune française possède un maire qui est élu pour 6 ans parmi les membres du conseil municipal. Une commune, c'est quoi? C'est une petite portion délimitée du territoire français. Là, en France, on comptabilise plus de 36 000. L'émiettement communal est d'ailleurs un phénomène propre à la France. Sur les 36 767 communes recensées en 2013, près de 32 000 ont moins de 2 000 habitants. La France rassemble à elle seule plus de 40% des communes de l'Union européenne. Alors, face à ce morcellement extrême, les pouvoirs publics ont cherché à limiter le nombre des communes et ont créé au fil du temps les conditions favorables, notamment pour l'intercommunalité. Néanmoins, chaque commune est une collectivité locale autonome prenant des décisions par l'intermédiaire d'une équipe municipale élue par les citoyens. Elle est composée d'un maire, d'adjoints et de conseillers municipaux. La commune gère son propre personnel, c'est-à-dire les employés des différents services municipaux. La loi sur le cumul des mandats ne permet plus de cumuler la charge municipale avec un mandat de député, de sénateur, de conseiller régional, voire de conseiller général. Il est également d'usage pour les maires de démissionner afin d'exercer une responsabilité ministérielle. La fonction de maire est apparue en France au XIIe siècle, lorsque la commune a été reconnue juridiquement et politiquement. Les maires représentant les communes alors étaient appelés pairs, échevins ou conseillers selon les régions. De nos jours, le maire est élu au scrutin secret parmi les conseillers municipaux pendant la première réunion du conseil municipal qui doit se tenir durant la première semaine suivant les élections municipales ou alors après la démission du maire précédent. Il occupe alors la fonction de président du conseil municipal et par ailleurs les maires peuvent démissionner librement de cette fonction ou être remplacés sans qu'ils soit nécessaire d'organiser de nouvelles élections municipales. Alors le rôle du maire, en France le maire bénéficie d'une double casquette puisqu'il est à la fois un agent de l'État et aussi un agent de la commune en tant que collectivité territoriale. Alors les pouvoirs et devoirs des maires sont notamment définis par le Code général des collectivités territoriales. Ses responsabilités sont les mêmes quelle que soit l'importance de la commune ou de ses services. Les signes distinctifs de cette fonction sont le costume officiel que les maires doivent obligatoirement porter lors des cérémonies publiques, l'insigne officiel des mairies ou couleur nationale, dont le port est facultatif, et l'écharpe tricolore, dont le port est obligatoire dans certaines circonstances. Alors, les fonctions du maire en tant qu'agent de l'État On le disait donc, sous l'autorité du préfet, le maire remplit des fonctions administratives, parmi lesquelles la publication des lois et règlements, l'organisation des élections, la légalisation des signatures. Il peut être chargé de l'exécution des mesures de sûreté générale. Il remplit aussi des fonctions dans le domaine judiciaire, sous l'autorité cette fois-ci du procureur de la République. Il est officier d'état civil, pouvant donc célébrer les mariages civils, et officier de police judiciaire. Il dispose également d'une fonction judiciaire civile, qui lui donne le droit de recevoir des actes authentiques au nom de la République française. Alors, cette fois-ci, on va aller sur les fonctions du maire en tant qu'agent de la commune. Et là, cette fois-ci, le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal, bien entendu, et agit sous le contrôle de ce même conseil. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget et gère le patrimoine. Certaines compétences dans des domaines très divers lui sont déléguées par le conseil municipal, auquel il doit ensuite rendre des comptes de ses actes. Il peut aussi, conformément à la loi du 13 août 2004, subdéléguer à un adjoint ou un conseiller municipal des attributions qui lui sont confiées par délégation. Alors cette fonction comporte également des pouvoirs propres en matière de police administrative. Le maire est chargé de maintenir l'ordre public, c'est-à-dire le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et dispose également d'une large compétence en matière de police municipale. Il est aussi le chef de l'administration communale et bien entendu donc le supérieur hiérarchique des agents de la commune. En matière d'urbanisme, le maire délivre au nom de la commune les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme. Alors par ses arrêtés municipaux, il peut également réglementer la circulation, le stationnement, la baignade, la navigation sur la commune ou encore prescrire des travaux en cas de mise en danger de la population ou de l'environnement. Donc avez-vous nos invités Jean-Marie Darmian et Claude Arnato. Nous allons aborder durant cette émission, mais voilà, dans un premier temps, les modifications des modalités du scrutin pour les élections municipales. On rappelle qu'elles vont se dérouler les dimanches 23 et 30 mars 2014. Les compétences des maires, leur relation avec l'intercommunalité, et notamment les comités de communes, ce qui nous permettra de voir aussi le budget, finalement, que gèrent les mairies. Et peut-être les changements dans l'exercice de la démocratie locale ou encore la démocratie de proximité. Et si nous avons le temps, on vous demandera votre sentiment, votre analyse sur quelques éléments statistiques, sur les élus locaux. Alors, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par, on va dire, l'actualité, vu que c'est le mois prochain. Donc, c'est le 23 et 30 mars, on aura les élections municipales et communautaires. Donc, c'est deux dimanches. Donc, avec vous, on va essayer de voir dans un premier temps mais ce qui va changer finalement. Alors, voter reste un geste citoyen, un moment important dans notre démocratie nationale et dans notre démocratie locale. Alors, peut-être avec vous, messieurs les maires, alors, voir ce qui va changer et peut-être, avant de répondre à cette question, voir aujourd'hui votre situation en tant que maire sortant, Jean-Marie Darmian et Claude Arnato. Pourquoi donc finalement vous ne vous représentez pas Jean-Marie Darmian ?
Oh alors là, ça va être un long monologue sur les raisons. Moi, mes raisons ne sont pas des raisons liées à une lassitude ou à une vision quelconque de la vie publique qui serait contraignante ou pesante, ou etc. C'est que je ne partage plus du tout la philosophie qui est appliquée à la gestion communale dans sa globalité et que je ne me retrouve pas dans une fonction que je connais depuis 1995. Et
d'ailleurs, vous avez été réélu avec des, on va dire, des scores, oui, incroyables.
C'est ce qu'on me reproche, c'est stalinien même. 82% à chaque élection.
Même vous avez battu un record même.
Oui, même dans les élections individuelles, puisque j'ai été élu au Conseil général avec 82% des voix. C'est pas ça qui compte, c'est pas une raison d'abandonner quelque chose. Je crois que dans ma vie personnelle, j'ai toujours vécu dans une mairie. Ma mère était secrétaire générale d'une mairie. J'ai habité depuis 1952 jusqu'à toute ma vie. J'ai toujours été en contact avec la mairie. Et je me faisais une certaine philosophie de la vie à travers ce que je percevais des maires d'autrefois, qui étaient André Lapaillerie, qui ont été pour moi Roger Caumont, qui ont été des gens qui apportaient une vision que je qualifierais de philosophique, de sociale, d'humaniste à la gestion des collectivités. Et pour faire court, je dirais que je ne me reconnais plus dans une gestion comptable, dans une gestion qui est rationalisée. Vous parliez tout à l'heure des pouvoirs des maires, il en a un, c'est qu'il a 400 000 normes actuellement à appliquer dans sa commune chaque jour. Je suis secrétaire général national de l'Association des maires de France. Et à ce titre-là, nous sommes obsédés par l'idée que, à terme, un maire ne pourra plus réellement exercer les pouvoirs que vous avez définis, puisqu'il lui faut, il lui faudrait chaque jour être sur le fil du rasoir par rapport à quelque chose qui s'impose à lui et qui n'a plus de rapport avec la fonction initiale et qui était celle de gérer l'intérêt général.
Très bien, on remercie Jean-Marie Darmian pour ce point de précision. Claude Arnato, alors votre situation par rapport à ces élections municipales?
Alors pour faire court, enfin, aussi d'abord, peut-être un petit historique, j'ai toujours été bercé moi aussi de près ou de loin par la vie communale, puisque mon premier job a été dans une mutuelle nationale pour territoriaux, hein, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était la mutuelle générale des personnels et des collectivités locales, devenue la MMT. Mais et dans ma famille, j'avais des adjoints au maire, des employés de mairie, ce qui fait que j'ai été dirigé par la suite, lors de la création de la CUB, par fonction donc communautaire.
D'ailleurs, j'ai exercé des fonctions importantes à la communauté urbaine de Bordeaux. Hein.
Je suis passé un petit peu par tous les postes pour finir. En fait, j'ai fait la majorité de mon temps, je dirais, en tant que directeur de service donc à la CUB, où j'ai fait plusieurs services sans vouloir épiloguer. Ouais. Voilà. Donc ma carrière a toujours été donc de la fonction publique, et c'est la raison pour laquelle donc en tant que technicien, je dirais, on est venu me chercher en 83 pour faire partie d'une équipe municipale. Ce que j'ai accepté bien volontiers. Et après 3 mandats d'adjoint, donc j'ai tout naturellement donc accédé au poste de maire, puisqu'on m'a choisi pour être.
Donc ça, c'était les dernières élections municipales.
Voilà. Donc de 83 à 2001, j'étais adjoint. Et de 2001 jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai fait mon deuxième mandat de maire.
Très bien. Donc au bout du deuxième mandat aujourd'hui, alors quelle est la situation pour vous?
Alors pour ce qui me concerne, moi, si j'arrête, c'est pas par lassitude non plus, comme l'expliquait donc mon ami Jean-Marie. Mais. Plus par raison personnelle et familiale, où il est temps aussi de passer le relais, et puis de penser un petit peu à soi. Égoïstement, je dirais, je voudrais un peu penser à moi et me réserver un petit peu de temps. Alors même si, effectivement, je resterai dans l'équipe municipale.
Voilà, vous demeurez sur une liste.
Tout à fait, pour faire bénéficier de mon expérience, de ma compétence et encore de ma disponibilité quand même.
Alors, voilà. Du coup, on va citer cette liste, on va citer les autres listes concurrentes et participantes à cette élection. Hein. Claude, je vous écoute.
Alors, donc, il y a 3 listes donc qui vont prendre le départ. La liste sur laquelle je suis, qui est la liste de M. Perruque, hein, qui est un de mes adjoints actuels. Et à côté de ça, on a deux listes opposées. Alors, si on peut citer les noms, celle de M. Dupic, qui est la première qui s'est prononcée.
Donc, oui, plus d'un an avant les élections.
Plus d'un an maintenant. Et celle de M. Vigoureux, qui a pris le départ, lui aussi, il y a quelques semaines.
Voilà.
Donc, il y aura 3 listes, effectivement. Un concours, je dirais.
Bon, très bien. Avec vous, donc, voilà, vous êtes évidemment bien au courant, bien renseigné sur ces élections. Alors, déjà, les élections municipales et communautaires vont se dérouler le dimanche 23 et 30 mars 2014. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on peut donner comme information nouvelle aux auditeurs, et donc aux électeurs, bien entendu, sur ce qui va changer? Alors, on le sait, il y a quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui, lors des élections, donc de mars 2014, tous les électeurs devront présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de leur commune, hein, et non plus seulement dans les communes de 3500 habitants et plus. Alors ça, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler dans les médias. Et nous, c'est vrai qu'autour de chez nous, on a beaucoup de petites communes. Et donc maintenant, dans toutes les communes, hein, il faudra prouver son identité avec une pièce justificative.
Alors le plus important pour nous, je dirais, c'est le changement de mode d'élection. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous... en dessous de 3500 habitants, le panachage est autorisé.
C'est
alors
fini.
Maintenant, c'est abaissé au seuil de 1000 habitants. Ce qui fait que pour nous, puisqu'on est à 3000 habitants maintenant, donc le mode d'élection change complètement. Ma crainte un petit peu, c'est que l'habitude des gens qui étaient habitués à panacher, certaines personnes continuent encore à vouloir faire la même chose.
D'ailleurs, panacher, quand on en parle avec rajouter... les gens, ils râlent un peu parce qu'ils disent « celui-là, je le connais, je l'aime pas, j'aurais bien voulu l'oreiller ».
Tout à fait, ou rajouter des normes. Sachant que souvent le maire était le plus rayé d'ailleurs, parce que c'est celui qui a peut-être pas toujours dit oui, donc c'était souvent ceux qui sont les moins connus, ceux-là ne les connaît pas, donc on ne peut rien leur reprocher. Donc effectivement, ils arrivaient à faire des scores beaucoup plus importants.
Donc là, ce panachage sera interdit pour les communes de plus de 1000 habitants.
C'est interdit et ça rend nul l'intégralité du bulletin. C'est tout le bulletin qui est nul. C'est très important. Et non, nous, on va faire un petit peu de rappel à ce niveau-là. On l'a déjà fait, puisque l'association des maires de Gironde a déjà publié une plaquette qu'on a diffusée, nous aussi, pour rappeler aux gens ce nouveau mode d'élection. Hein. Mais je crains que, effectivement, certains, par habitude, continuent encore, ce qui entraînera beaucoup de nullité. Hein. Voilà, ça, je le crains. La deuxième nouveauté, bien sûr, c'est l'élection directe au suffrage universel maintenant des représentants à la communauté de communes.
Et du coup, hein, qui gagne en légitimité, là, parce que bon, certains se plaignaient effectivement que c'était un vote interne.
Une nouvelle, voilà. Ça, c'est les deux principales innovations, je dirais.
Donc d'ailleurs, sur la plupart des communes de plus de 3000 habitants, on aura deux listes. Hein. On aura la liste des conseillers municipaux et la liste des conseillers communautaires.
Sur le même bulletin, ce qui a pas été, ce qui a fait l'objet de, puisque j'ai participé à toutes les négociations de mise en place de ces textes, ce qui a fait l'objet d'un long débat, parce qu'on ne voit pas comment les gens vont comprendre que l'élection de l'intercommunalité au suffrage universel, alors que ça sera sur la même liste et pas dans le même ordre que la liste municipale, puisque ils doivent être choisis dans le premier quart. Enfin, c'est d'une complexité affolante sur la base de la parité, et on vient de s'apercevoir, même après un texte qui est passé au Conseil d'État et partout, qu'il y avait une anomalie, puisque dans les communes de moins de 1000 habitants, il n'y aura qu'un siège et c'est le maire. Et son suppléant devra être du même sexe. Or, ça ne pourra pas être le deuxième de la liste, puisque le deuxième de la liste sera une dame. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait un vice de procédure et qui risque d'entraîner dans ces communes-là des contentieux sur le fait que le troisième sera l'homme, si c'est l'homme maire qui est désigné, le troisième de la liste sera son suppléant, mais ne pourra jamais le remplacer. Puisque ils ont inventé un système usine à gaz dans lequel je suis pas certain, moi, que le citoyen
va s'y retrouver.
Oui.
Claude, si on veut simplifier, pour les communes de 1000 habitants et plus, la présentation du bulletin de vote change, du coup.
Oui.
Désormais, sur le bulletin de vote va figurer gauche la liste des candidats à l'élection municipale, à droite celle à l'élection communautaire. Donc du coup, quand on va voter pour les deux listes à la fois.
Oui.
Et par contre, comme vous le dites, Jean-Marie Darmian, pour celle de moins de 1000 habitants, la présentation du bulletin de vote ne change pas et les électeurs n'éliront pas de conseiller communautaire lors de l'élection municipale. En effet, ce sera lors de l'élection du maire et de ses adjoints à la première réunion du conseil municipal, voilà, avec les problèmes que vous avez soulevés.
Moins de 1000 habitants, le maire sera obligatoirement délégué à l'intercommunalité, sauf s'il renonce ce jour-là par une délibération à occuper son poste, auquel cas on prendra le deuxième de la liste qui est une femme, ce qui entraînera que ce soit la quatrième de la liste qui soit suppléant. Enfin bon, je pense que là, on n'a pas simplifié vis-à-vis des électeurs la lisibilité de la démocratie.
Bon, enfin, quoi qu'il arrive, on va à la
fois... C'est d'autant plus important, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Christophe, que le nombre de petites communes dans notre pays est considérable.
C'est vrai. Même en Europe, on fait partie... on a rien qu'à nous, la France, on a 40% des communes en Europe. Donc c'est vrai que ça reste quand même un chiffre significatif.
Nouveauté, je suis désolé, la nouveauté, c'est qu'on a réduit le nombre de conseillers municipaux, ça ne se dit pas, dans les petites communes qui passent de 9 à 7. C'est-à-dire qu'on a considéré que dans les petites communes où il était déjà difficile d'exercer le pouvoir local, puisqu'on le voit bien, nous, avec Claude, à travers les représentations dans les multiples syndicats intercommunaux, l'eau, l'électricité, l'assainissement, le pays, etc., ils ne sont plus que 7. Et je vois difficilement un maire d'une petite commune sans moyens être obligé de faire quelquefois 8 à 10 réunions par semaine. Et il sera le seul à pouvoir les assumer. Enfin, il y a quand même quelque chose de paradoxal, sauf si on veut, à la limite, à terme, la disparition des petites communes. Mais ça, c'est un débat.
C'est un autre débat, peut-être, Jean-Marie. Alors, qui peut voter à ces élections municipales? Bon, évidemment, les Françaises et les Français âgés de plus de 18 ans, à condition d'être évidemment inscrits sur les listes électorales. La date limite, c'était le 31 décembre 2013, mais on a aussi les ressortissants de l'Union européenne ayant plus de 18 ans qui peuvent également voter, évidemment à condition qu'ils soient inscrits eux aussi sur les listes électorales. On peut évidemment voter par procuration, n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas dans votre secteur ou près de votre bureau de vote à ce moment-là. Voilà. Et c'est vrai que la carte d'identité pour les communes de 3500 habitants n'était pas obligatoire, enfin la carte d'identité, le permis de conduire, le permis de chasse, de pêche, le passeport. Voilà, enfin, justificatif d'identité sera demandé à tous les électeurs. Hein. Donc, voilà ce qui change, on va dire, dans les grandes lignes. Maintenant, si vous le voulez bien, on va revenir sur les compétences à la fois des maires. Mais Joël, voulait intervenir.
Juste par rapport à l'évolution du mode de scrutin, je voulais avoir l'avis de nos deux maires sur, au fond, ce qui change aussi, qu'on ne dit pas, c'est-à-dire qu'on est dans un scrutin de liste, désormais. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension que le législateur a voulu, est-elle pertinente ou pas, je ne sais pas, mais une dimension plus politique de cette élection. Et j'aurais aimé rapidement savoir comment vous le jugiez, cette évolution, vous la jugiez, vous la perceviez, cette évolution.
Alors sur le scrutin de liste, Claude a indiqué tout à l'heure qu'il y avait un paradoxe dans le scrutin uninominal, c'est que la personne la plus exposée était souvent le maire. Alors que là, on a inversé la tendance, puisque la seule personne qui est sûre d'être élue, c'est la tête de liste.
Oui.
Ce qui, à mon avis, va poser des problèmes, on en parlera probablement tout à l'heure, dans la gouvernance des intercommunalités. Ah. Parce qu'on assiste à un phénomène de plus en plus fort où la seule difficulté que peut avoir un candidat de quelque tendance qu'il soit, c'est de constituer une liste. D'arriver à constituer une liste, puisque la constitution de la liste lui donne une élection automatique. Ce qui n'était pas le cas dans le scrutin uninominal. Oui. Parce que, on a bien vu, Joël, tu es expert quand même là-dedans, tu sais bien que dans des petites communes, il y avait des gens qui se présentaient, mais ils étaient rarement élus. Par exemple, les anti-quelque chose, ils étaient rarement élus. Là, avec le scrutin de liste, ils ont la certitude. Donc, on assiste, j'ai fait une réunion des maires du canton récemment, et les maires sont obsédés par l'idée d'arriver à faire une liste paritaire. Et je connais une commune dans laquelle tout le monde cherche des femmes. Voilà.
Donc le risque, c'est quoi? La multiplication
des listes? Le risque, c'est qu'il y ait des gens qui méritent d'être élus, qui ne puissent pas être élus parce qu'ils n'arriveront pas à faire la liste. Voilà. Et ça, c'est le problème numéro un des communes entre 1000 et 1500 habitants. C'est-à-dire que c'est facile sur le papier de dire on fait une liste bloquée, paritaire, Shabada, etc. Sauf que dans les faits, si vous n'arrivez pas à constituer cette liste, vous n'accédez pas au suffrage universel. Par contre, ce que dit Joël, si vous arrivez à faire cette liste, vous êtes sûr d'être élu, même si vous faites 10%, 12%, etc. Ce qui est en train de faire une course à l'échalote pour constituer les listes. Moi, j'ai pas peur de dire que je sais qu'actuellement, un parti d'extrémistes propose 2000 euros par candidat pour faire des listes.
On achète des places sur la liste, quoi.
Parce que si tu n'as pas la liste, tu n'as pas il n'y a pas d'élection. Ce que dit Joël, c'est un changement profond de mode de pensée dans le suffrage universel. C'est-à-dire qu'avant, on s'exposait personnellement. Là, je n'ai pas d'exposition personnelle, puisque si j'ai ma liste, je suis élu. Donc l'objectif, c'est de faire une liste.
Alors peut-être, dernière précision, c'est que contrairement aux précédentes élections municipales, il ne sera plus possible de voter pour une personne qui ne s'est pas déclarée candidate. On pouvait rajouter évidemment des noms. Autrefois, non. Donc là, la date limite pour se déclarer candidat, on le rappelle, ça sera quand même le 6 mars 2014 à 18h. Avec vous, alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre sur les compétences et à la fois des communes, donc des maires, et aussi le budget, d'une certaine manière, parce qu'en face de chaque compétence, il y a une ligne budgétaire. Alors, on le sait, le budget, c'est important pour une commune, donc il est voté par le conseil municipal à deux périodes dans l'année, divisé en deux parties, recettes, dépenses. Chaque partie est elle-même divisée en deux, fonctionnement et investissement. Donc les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement. On va tracer avec vous, si vous voulez bien, plusieurs postes et vous allez nous dire effectivement ce qui revient à la commune et comment c'est budgété. Bon, par exemple, formation professionnelle apprentissage, ça revient pas à la commune, on sait que c'est la région. Enseignement, secteur communal, on a les écoles, par exemple, notamment les bâtiments.
Alors les écoles, bien sûr, nous appartiennent, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement.
C'est ça.
Et là, c'est un sujet sur lequel, cette année, on a confronté des dépenses supplémentaires avec les rythmes scolaires. Et pour ce qui nous concerne, nous, personnellement, je suis obligé de construire deux classes nouvelles, parce qu'on est obligé de libérer des locaux pour, justement, les activités périscolaires, dans ce qui nous amène à construire deux classes de plus, hein, avec les difficultés que nous avons et que nous posent les banques.
Puisque ont du mal à prêter.
La première banque que j'ai consultée, qui manque de fonds propres, on ne la citera pas, c'est pas la peine, c'est une grosse banque locale, ne pouvait nous prêter que 50% de la somme.
D'accord.
Donc ça m'a amené à me tourner vers une autre, qui heureusement nous a prêté l'intégralité des fonds. Sinon, j'aurais été confronté à un problème pour construire donc notre extension de groupe primaire.
Et donc ça, c'est des dépenses supplémentaires,
bien. Des dépenses, bien sûr, qui nous sont occasionnées par le rythme scolaire. Hein. Alors, bon, On est pour, on est contre, mais moi j'ai pas de.
T'as toujours dit que dans la commune de Montussan, ça va se traduire directement par.
Ça va se traduire par des dépenses supplémentaires, évidemment, comme toutes les communes, hein, sachant que l'aide que l'État va nous apporter, donc même s'il est reconduit en 2014. Il y a toujours l'incertitude de la pérennité de ces aides.
C'est vrai, c'est encore en suspens, bien que certains les garantissent encore pour quelques années. Mais...
On nous reproche de trop dépenser, je veux bien. Enfin, les communes ont toujours voté leur budget en équilibre, ils ont toujours remboursé leurs emprunts. Hein. Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'État depuis 40 ans qui vote des budgets en déséquilibre.
Alors, on a aussi cette ligne culture, vie sociale.
Excusez-moi de le dire, mais bon, il faut quand même le dire quelquefois.
C'est vrai, c'est vrai. Faites bien de le rappeler. On a aussi cette ligne culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs. Alors, Jean-Marie Darmian, c'est vrai que vous intéressez vraiment depuis de nombreuses années à la vie associative et jeunesse et sport et loisirs. Alors là, effectivement, le secteur communal a des compétences.
Alors là, on est au cœur du débat des futures années et du mandat qui va s'ouvrir pour nos collègues qui acceptent de prendre cette charge. Le débat qui va surgir dans les prochaines semaines au niveau des médias et au niveau du débat national, c'est la notion de compétence. Vous avez parlé de compétence. Tout le système français est ébranlé par ce système de répartition des compétences. Or, la mairie, et Claude le sait bien, nous sommes dans la compétence générale. Cette compétence générale, elle a un avantage dans le domaine des loisirs, du sport, de la culture, c'est qu'elle permet à des maires de bâtir des politiques volontaristes et d'accompagner le milieu associatif ou d'accord. Le problème, c'est que cette compétence générale, jusqu'à présent, elle est partagée par deux collectivités qui sont le département et les communes. Or, le grand débat des prochaines semaines, c'est de savoir s'il ne va pas y avoir que nos collègues maires qui, dans un avenir proche, auront que la compétence générale. C'est-à-dire que sur le sport, la culture et les loisirs, mon inquiétude, c'est que demain, la région, je participe à une réunion le 5 mars, je crois, sur la répartition des compétences avec la région, qui dit, elle, ben nous, on veut s'occuper du sport de haut niveau. D'accord ? Le département pourra dire, ben nous, on a des compétences obligatoires qui sont la lecture, qui sont les archives, qui sont etc. Donc, au bout de la chaîne, moi, je fais une comparaison facile. Le maire, actuellement, c'est l'ailier au rugby. Quand on ne sait pas quoi faire de la balle, à rugby, on m'a appris, on l'envoie à l'aile. Et le maire, il reçoit la balle. Et lui, doit faire l'exploit de se faufiler entre la touche et le trois quarts centre qui est en face. Mais quelquefois, il peut prendre tout le pack aussi sur la tronche.
Ça peut arriver, ça peut arriver.
Et moi, par expérience, je sais qu'on prend souvent, plus souvent le pack que se faufiler sur la touche. Tout le monde n'est pas blanco, tout le monde n'est pas
assez agile.
Voilà.
Quoi, hein,
voilà. Et c'est tous les secteurs que vous venez de signaler, mon inquiétude, c'est que dans le prochain mandat, ça soit de la compétence exclusive des mairies, ce qui serait dramatique pour les associations, ce qui serait dramatique également pour la culture. Et je crains, moi...
Bon, Jean-Marie, on refera une émission post-élection.
Je le dis franchement parce que... Enfin, il est toujours difficile de parler de soi, mais je viens de négocier avec le gouvernement une charte qui est la charte collectivité territoriale État-région qui va être signée par le Premier ministre d'ailleurs vendredi à Nancy. Et cette charte-là, elle est capitale pour l'avenir de la gestion des communes. Sauf qu'elle n'est pas perçue comme un capital dans la mesure où tout le monde se dit « bon, si ces braves maires, ils assument tout ». Ben voilà, ça va être bien. Mais moi, je vois pas les citoyens taper à la sonnette du maire en disant « voilà, mon théâtre va mal, qu'est-ce que vous faites ?» quoi. Ça sera pas possible dans les circonstances
financières. Donc on le voit un poste important et qui risque à évoluer...
Un poste socialement important. Budgétairement, c'est jamais malheureusement le principal poste des communes.
Alors on a l'action sociale et médico-sociale qui peut être facultative sur les communes. On pense aux CCAS, bien sûr, les centres communaux d'action sociale. On a l'urbanisme, et ça, c'est important pour tout un chacun.
On a encore l'urbanisme.
Oui, comme. Avec le permis de construire.
Non, avec le PLUI qui arrive, le plan local d'urbanisme intercommunal qui va faire que les maires, d'une façon ou d'une autre, seront dessaisis de leurs droits d'urbanisme.
Bon, en même temps, on peut objecter, Jean-Marie, que c'était peut-être une évolution parfois inéluctable compte tenu la facilité dans laquelle certains maires ont pu se laisser enfin aller, donc avec des conséquences, on le voit, avec l'artificialisation en particulier du foncier dans des territoires où encore il y a de l'activité agricole, notamment, hein. Pas exclusivement. Et puis on est dans le périurbain, ici on est sur la rive droite, mais... Est-ce qu'il ne fallait pas avoir une vision d'ensemble ? Ce n'est pas le même sujet. Hein.
C'est un sujet important, tu sais bien.
C'est un sujet important.
Juste, oui, et notamment les permis de construire. C'est vrai que c'est toujours difficile pour un maire de trouver l'équilibre aussi. Voilà, est-ce qu'il transforme un terrain agricole en zone habitable ou est-ce qu'il va plutôt le dédier à l'entreprise ? Enfin bon, il faut trouver toujours une recherche d'équilibre. En tout cas, aujourd'hui, vous restez quand même les maîtres.
C'est vous qui signez le permis.
Hein, c'est vous qui signez le permis de construire, hein, on est bien d'accord.
Moi, ce que je veux dire, c'est que sans vouloir défendre le PLUI, hein, mais à mon avis, c'est inéluctable, on ira vers ça, tôt ou tard. Mais il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a encore les services de l'État qui nous apportent leur aide pour l'instruction des permis de construire. Or, ça, il faut s'attendre à ce que demain, l'État se désengage complètement. Et ce n'est pas les communes qui vont individuellement pouvoir reprendre l'instruction de leur permis. Elles n'ont pas le personnel pour.
D'accord.
Donc, moi, je vois ça de manière inéluctable. C'est les communautés de communes qui vont reprendre l'instruction des permis pour l'ensemble des communes dépendant de leur territoire. Donc ça va un petit peu de pair avec le PUI.
D'accord.
Que la compétence d'urbanisme soit intégrale au niveau des communes.
Je voulais répondre à la remarque de Joël. En fait, une grande part des difficultés que l'on rencontre sur l'urbanisme débridé vient de la suppression de la taxe professionnelle. Moi, je suis dans un grand débat là-dessus et c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a incité en ce qui me concerne à quitter le poste parce que je crois qu'à terme il y aura un gros problème, c'est que la richesse des communes repose sur l'habitant. Alors qu'autrefois, Claude et moi, nous avions développé des activités économiques et nous avions une croissance grâce à l'ATP de nos ressources sans que l'habitant soit mis à contribution. Alors évidemment, il y avait un débat qui était logique. On pouvait pas aller trop loin. Bon, enfin, peu importe, on va pas le ranimer. Mais le problème qui me préoccupe beaucoup et qui correspond à ce qu'a dit Joël, c'est que mes collègues sont dans la course à l'habitant. C'est-à-dire que s'ils veulent augmenter leurs recettes de fonctionnement, puisque vous parliez de recettes de fonctionnement, elles ne reposent plus que sur la taxe d'habitation et sur le foncier bâti. Ça, c'est très important pour comprendre les enjeux du prochain mandat. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on va dire à un maire « tu peux donner davantage de services à ta population, il faut que tu nous donnes davantage de services ». Alors que ces seules recettes, parce que celles de l'État vont baisser de 4%,
subvention l'État, on parle,
4% cette année, voilà. probablement
pour l'ensemble des dépenses publiques.
Je donne un message à tous ceux qui sont candidats, d'après mes informations, 8% l'année prochaine, ce qui va être dramatique.
Ça veut dire
ce côté-là.
Quoi ça,
ça veut dire que
les impôts locaux en augmentation.
Alors, il y aura deux solutions, ou compensation par l'imposition locale, et donc forcément par une augmentation des taux sur les habitants existants. Ou deuxième solution, faire croître démographiquement sa population pour ne pas être obligé d'augmenter les taux. Et ça, c'est l'effet pervers
du système. Donc la prime aux habitants, Jean-Marie Darmian, effectivement.
Oui. Voilà, la CUB annonce 1 million d'habitants, on dit, on s'extasie. Pourquoi elle veut 1 million d'habitants, la CUB ? Elle veut 1 million d'habitants parce qu'elle sait que dans 10 ans, ses seules recettes seront l'habitant.
D'accord.
Et ça, c'est très grave.
Sans compter, parce que je disais en plus, au niveau de la baisse des recettes, dernièrement, je lisais un article où il est question de supprimer une vingtaine de taxes.
Oui, la taxe électricité, c'est officiel.
Hein. Donc là encore, c'est des recettes en moins pour les communes. Hein. Alors, rajouter à ça donc, à la baisse de la DGF donc, cette année
donc,
et puis la prochaine.
Pas d'augmentation d'impôts avant les élections, mais après, certainement.
Ça dépend de la façon.
Hein. Alors, on poursuit. D'un côté, les dépenses augmentent, hein, ne serait-ce que pour satisfaire les besoins
normaux. Bien sûr, et de l'autre côté, les recettes diminuent.
On baisse les recettes. Alors, c'est vrai qu'on continue encore à vouloir quand même des implantations économiques, notamment chez nous,
pour
la
plupart.
Ne serait-ce que pour des taxes foncières supplémentaires aussi. Bon. Même si la taxe professionnelle n'existe plus, si celle qui l'a remplacée est perçue par les communautés de communes. Bon. Mais au moins, aujourd'hui, il y a quand même le foncier qui nous reste. Maintenant, moi, je suis quand même inquiet. Parce que je me dis, jusqu'à quand ? Et c'est pour ça un petit peu, alors, pour cette personnellement, vu les difficultés financières vers les communes où on va, qui m'inquiètent, et c'est un petit peu pour ça aussi que je préfère laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre, mais moi je m'inquiète, parce qu'on nous parle maintenant de la réforme fiscale, là encore, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez ?
Bon, très bien, on fera une émission.
Parce qu'il y a quelque temps, j'avais entendu dire que la taxe foncière et la taxe d'habitation pourraient faire comme la taxe professionnelle, passer à la communauté de communes, qui nous reversera après ce qu'elle voudra bien reverser. Autrement dit, on perdra complètement
tout
pouvoir financier en la matière. Alors, je ne veux pas anticiper trop, mais il y a quand même quelques inquiétudes de ce point de vue.
J'aimerais poursuivre avec vous sur différents postes, comme l'environnement, par exemple, notamment les espaces espaces naturels, la collecte, le traitement des déchets, la distribution, l'assainissement de l'eau, la distribution de l'énergie. Ça, c'est aussi la compétence de la mairie, du maire.
Alors pour l'eau, c'est intercommunal.
L'eau, c'est intercommunal, oui.
Mmh. Voilà, la distribution d'eau potable est intercommunale.
Entretien, espace naturel, déchets.
Déchets, c'est aussi. Intercommunal.
Intercommunal,
aussi.
C'est passé.
Et assainissement, ça dépend des communes. Moi, je l'ai gardé en communal.
Nous, les ordures ménagères, c'est la communauté de communes qui a la compétence, voilà, moi, mais qui sous-traite quand même tout ce qui est, bien sûr, ramassage.
La voirie.
À deux syndicats. Pour ce qui nous concerne, nous, il y a deux syndicats. Le Saint-Octobre et le Sylvain de la rive droite.
Pour le traitement des déchets.
Voirie communale et commune.
Commune, hein, bien sûr, voirie communale. Donc,
Sauf peut-être que quelques grandes voiries. Ce qui nous concerne, qu'on a passé les voies de liaison intercommunales qui sont passées à la communauté de communes.
Les transports urbains et scolaires.
Transport scolaire, c'est la communauté de communes en lien avec le conseil général, hein, qui a la compétence générale. Ouais, et les communautés de communes, en général, ont compétence délégation secondaire.
Communication, gestion des réseaux, c'est l'échelle de la commune ou c'est plus haut, le département?
Gestion des réseaux, si c'est les réseaux d'assainissement, c'est...
Communication, c'est... là.
La communication,
non. C'est logement, habitat. Financement, parc et aide.
Nous, en général, les logements, on fait appel à des organismes sociaux de construction.
D'accord. Développement économique, ça peut être des aides indirectes ou pas? Ça peut arriver de la part d'une commune?
Le développement économique, donc c'est le pays, c'est conseil général et communauté.
Et puis les communautés de communes.
Et pour finir, la sécurité, que ce soit la police municipale, circulation, stationnement, des préventions de la délinquance ou encore sécurité incendie.
Ça, c'est la maire.
La mairie.
Tout ce qui prête à prendre des coups, c'est la maire.
Alors du coup, aujourd'hui, on le voit, vous faites partie d'ailleurs, vous êtes encore maire sortant de vos communes respectives, et vous faites partie de communautés de communes. Donc on le voit, l'État a voulu favoriser l'émergence de cette intercommunalité. D'ailleurs, la communauté de communes n'est qu'une des figures de cette intercommunalité. Il y a d'autres possibilités d'intercommunalité. Alors, qu'est-ce que ça a véritablement changé, vous, à l'échelle de votre commune, au niveau de vos administrés? On l'a vu, il y a des services, il y a des actions qui ont été mutualisées à l'échelle de la communauté de communes, il y en a d'autres qui restent à la mairie. Qu'est-ce que ça a véritablement changé dans vos pratiques, et même en termes de budget, finalement, là aussi?
Dans la pratique, bon, l'administré, il s'adresse toujours au maire. Dès qu'il a un souci quelconque, il regarde
pas. Oui, il va pas aller voir le président de la CDC, quoi.
Communautaire, c'est toujours nous. Bon, donc
c'est,
après...
Pardon, mais s'il le connaît pas, c'est quand même un problème, parce que finalement, c'est quand même lui qui a un pouvoir supérieur à celui du maire.
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Il n'a pas de pouvoir supérieur à l'égard du... Enfin, là, il y a un débat philosophique sur l'intercommunalité. Le débat philosophique, c'est est-ce que l'intercommunalité, je vais peut-être faire réagir Joël, est-ce que l'intercommunalité est une collectivité territoriale ou est-ce que l'intercommunalité est un outil de solidarité territoriale? La différence paraît mince, mais la différence est fondamentale. Si c'est une collectivité territoriale, ça suppose pour moi que le président de l'intercommunalité et les conseillers communautaires sont redevables du suffrage universel.
Complètement.
D'accord ? C'est clair. C'est-à-dire que si je gère mal ma communauté, si je fais des dépenses inconsidérées, actuellement, je n'ai pas de sanction du suffrage universel.
Alors, du coup, aujourd'hui, j'aimerais dire bien, c'est à partir de cette élection, du mois de mars.
Non,
les conseillers communautaires seront élus.
Je n'ai pas réagi. Non, les conseillers communautaires ne sont pas élus. C'est sur une liste qui est proportionnelle à ce que vous allez voter au municipal. C'est-à-dire que si on veut.
C'est pas le suffrage universel direct.
Ah, ben oui, je suis désolé.
C'est
une étape.
Mais ce n'est pas le suffrage universel direct.
Voilà, c'est exact. C'est la bonne remarque. C'est une étape. Qui va proposer que, à mon avis, au prochain renouvellement municipal, il y aura deux listes séparées. Ça a été un grand débat national. Il y aura une liste avec un président de communauté, Monsieur X, et une liste à la proportionnelle de 30 sièges, comme ça devrait être le cas à la CUB ou ailleurs. Parce que moi, je suis attaché à ça, c'est que pour moi, une collectivité territoriale est une collectivité dont les gérants sont responsables vis-à-vis du suffrage universel direct. On parlait tout à l'heure du syndicat des déchets. C'est la caricature, le syndicat du déchet. Le maire d'une commune est responsable de la collecte des déchets. Il délègue sa compétence à une communauté de communes. C'est au sein du conseil communautaire que sont élus les délégués au deuxième niveau à un syndicat intercommunal dans lequel ils vont gérer les déchets. Mais ce syndicat intercommunal ne prend qu'une portion du conseil communautaire. Ce qui fait qu'au troisième niveau, on a quelqu'un qui peut vous mettre une taxe de déchets ménagers aberrante. Il n'a pas de responsabilité électorale. Le seul qui est exposé au suffrage universel, j'en connais trois, c'est les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Mais le reste, pour moi, ce ne sont que des outils de solidarité territoriale. C'est-à-dire que on se met ensemble pour faire une crèche, etc. On est d'accord pour se mettre ensemble, on est d'accord pour agir, mais jusqu'à présent, on n'a pas de responsabilité à l'égard du suffrage universel. Moi, je suis dans une communauté de communes qui défraye la chronique, dont je suis plus membre, qui défraye la chronique tous les jours. Quelle est la responsabilité ? Aucune. Les contribuables vont payer l'amende qu'a pris le président, mais bon, voilà, il peut rester chez lui tranquille, il n'aura aucune sanction du suffrage universel. Alors, pour répondre, ça mérite quand même un peu de courage. Ou c'est une collectivité territoriale, et à ce moment-là, moi je ne suis pas contre, mais voilà. Mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas une collectivité territoriale, c'est un outil. Et il faut que les maires le vivent comme un outil, et non pas quelque chose qui va remplacer leur pouvoir.
Est-ce que les maires le vivent comme un outil ?
Non, les maires ne le vivent pas comme un outil. Il y a deux catégories. Le maire, il dit « je ne peux pas régler ce problème ». Intercommunalité. Je peux pas régler ce problème, intercommunalité. L'autre maire qui dit, moi, je suis capable de gérer ce problème-là. Si je prends mon exemple personnel, Créon est capable de se faire un centre loisirs, un cinéma, un stade, une crèche, on l'avait déjà. Donc, pour nous, l'intercommunalité n'a supposé aucune économie. Aucune économie.
Est-ce que vous soulignez finalement c'est son déficit de d'être légitime démocratiquement finalement ?
Il n'y en a pas de légitimité démocratique.
D'accord.
Vous dites, on va prendre sur une liste, je vais mettre 5 noms. Les 3 premiers sont, mettons l'exemple de Claude, il y a 3 listes. Il y aura les 3 premiers de la liste majoritaire, un de l'autre, un de l'autre. Mais après, c'est
donc
fini.
Donc un outil de mutualisation des actions qui concerne plusieurs communes,
oui.
Mais en aucun cas un degré de responsabilité vis-à-vis de citoyens.
Mais non, il n'y en a pas.
Par manque de légitimité démocratique, tout simplement, Jean-Marie.
Ben
c'est
oui,
ça,
parce qu'il faut avoir le courage de trancher à un moment donné.
Très bien.
Non, et puis la complexité aussi.
Ils y connaissent ça, ils comprennent pas.
On va passer sur le fait qu'il faut être dans le quart premier d'aller sur le conseil municipal pour être conseiller communautaire.
Merci de nous épargner.
Ça, c'est de la complexité. Et ce qui fait qu'en plus, ça amène à ce qu'effectivement, la tête de liste, donc le futur maire, doit être effectivement le représentant de commune. Alors que c'est pas forcément le choix de.
Non, j'y suis pas, moi, par exemple.
Bon, il se peut qu'il y ait dans la liste quelqu'un d'autre qui aurait pu être à la côté de la tribune avant la tête de liste municipale.
Tout à fait.
Voilà. Donc, il y a des choses qui sont pas normales.
Donc, qui sont urbaines.
On a compliqué à outrance les choses, alors qu'on aurait pu aller vers quelque chose de beaucoup plus simple et de plus démocratique.
On poursuit, messieurs les maires, donc avec la démocratie locale. Hein. On entend parler de progrès dans la démocratie locale ou encore de démocratie de proximité. Alors en effet, depuis la loi du 6 février 92, un droit à l'information est accordé notamment à l'opposition locale. Alors en quoi ça consiste ce droit à l'information ? Ce droit d'informer justement l'opposition, voire tous les citoyens, sur des délibérations futures, à venir, sur des choix à faire pour l'avenir de la commune. Ça c'est une nouveauté que vous avez pu mettre en œuvre, vous, dans le cadre de vos fonctions de maire ?
Alors chez nous, la question ne se posait pas parce qu'on a toujours été élu liste complète, hein, ce qui ne sera plus le cas désormais.
Ah oui, désormais, hein. Oui.
Bon, mais jusqu'à présent, nous, c'était donc une liste complète, donc il n'y a pas d'opposition.
Et pour Jean-Marie Darmien, alors liste, du coup, ce droit à l'information, c'est une nouveauté, ça fonctionne.
C'est peut-être le point capital du prochain mandat. C'est-à-dire que, obligatoirement, le nouveau mode de scrutin va changer la gouvernance communale. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle les maires vont être jugés, certes, sur en tant que bâtisseurs, etc., mais ils vont être jugés sur leur capacité à gouverner dans le cadre d'une démocratie de proximité. Ce qui est facile à dire, mais pas facile à faire. Pour deux raisons. L'expérience que j'ai d'une volonté communale de démocratie participative quotidienne, c'est que malheureusement, là aussi c'est une raison pour laquelle j'arrête, on a transformé l'électeur, il a deux choix l'électeur, ou il est consommateur de services, ou il est citoyen.
Je crois savoir que vous préférez le côté citoyen, hein, de l'électeur.
Je préfère. Et donc, je pense que l'un des grands échecs de la politique de ces 3 ou 4 dernières années, nationale, locale, ou même à tous les échelons, c'est qu'on a tendance à considérer l'électeur comme un consommateur. Il est consommateur de services pour les déchets, il est consommateur de services pour l'eau, il est consommateur de transport scolaire, il est consommateur de sécurité, il est consommateur de logement, etc. Mais à aucun moment, il se sent impliqué dans les conséquences de ce qu'il réclame. La seule conséquence qu'il réclame, il va voir Claude Arnoteau, il dit les impôts sont trop chers. Mais par contre, je veux un stade en synthétique. Oui. Voilà. Et donc, ça,
parce que. Il peut avoir des demandes contradictoires,
oui,
des fois.
Hein. Parce que sa vision de consommation est extrêmement égoïste. C'est-à-dire, s'il est au club de foot, la priorité, c'est
l'équipement.
Voilà. Et si le maire lui dit, écoute, je veux bien faire un synthétique, mais préoccupe-toi de savoir comment fonctionne le club de football, la citoyenneté, c'est-à-dire est-ce que ce club de football, il paye ses joueurs, est-ce que ce club de football, il forme des jeunes, est-ce que ce club de football, etc. Il dit, mais ça, non, je ne peux pas le faire tant que j'ai pas la pelouse en synthétique. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Si on ne revient pas vers une citoyenneté, une implication citoyenne des gens dans leur gestion locale, ils sont condamnés à terme à devenir des grands supermarchés de services.
Oui, Jacques Brunet pour l'Écho des Collines.
Alors, vaste problème. Peut-être que le sentiment de la solidarité, c'est toute une éducation qui devrait commencer très tôt. Hein. Peut-être si on pratiquait davantage cette coopération, ça changerait un peu.
Ben oui, moi, tu sais bien mon sentiment là-dessus. C'est-à-dire que le maire, il est le reflet de la société. Je suis attentivement tous les jours dans le Sud-Ouest.
C'est pour ça qu'on est inquiet.
Je suis tous les jours dans le Sud-Ouest l'annonce des listes. Je découpe tous les articles parce que je trouve que c'est très révélateur de ce changement. Je ne trouve que des maires qui proposent des catalogues. Que des catalogues. Je vois pas un maire qui dit...
C'est-à-dire qu'ils sont plus démagos les uns que les
autres ? Non. Ils savent que pour être élu, c'est le cas de... Je vais pas prendre l'exemple d'un célèbre président de la République qui a fait un catalogue et qui maintenant, il n'a plus les objets nécessaires dans le catalogue qu'il a fait. Parce que c'est la raison des choses. Il dit le stock est épuisé, quoi. Je peux pas vous répondre. C'est l'histoire de l'appel d'offres de Lidl qui dit venez acheter quelque chose chez moi.
Ah, il
y en a plus, voilà, c'est comme ça. Et je vois que des maires qui disent je vais vous construire ça, je vais vous faire ça. J'ai vu une liste qui disait à chaque quartier, elle promet la réfection de la route différente quartier par quartier. Et quand le gars fait le total, son opposant, il dit c'est facile, quoi. Il y a 100% du réseau communal qui va être refait. Ça, c'est dramatique parce qu'on n'a plus besoin en situation de crise de faire des catalogues parce qu'aucun maire.
Il ne pourra le respecter, le catalogue.
C'est impossible dans le contexte économique.
Moi, c'est une différente. Moi, j'ai toujours dit aux administrés, on gère une commune comme on gère son ménage. C'est-à-dire que ce que l'on veut, on se le paye. C'est-à-dire que dans un ménage, on a tous envie de changer la voiture, de partir en vacances, agrandir.
Mais souvent, on fait les économies, on épargne avant.
On ne peut pas aller voir le patron pour lui dire j'ai envie de tout ça, il faut m'augmenter. Donc, nous, c'est pareil. Effectivement, on a des administrés qui voudraient qu'on agrandisse l'école, qu'on fasse un stade, comme disait Jean-Marie. Donc, on peut avoir la folie des grandeurs, mais après, il faut augmenter les impôts. Et ça, comme les gens ne veulent pas payer plus d'impôts, on fait avec nos moyens. Alors, et comme nos moyens sont de plus en plus restreints, il faut savoir aussi savoir ce que l'on veut. Alors, et moi, je sais que... on termine le mandat, on a pratiquement réalisé tout ce qu'on avait mis sur notre liste ou notre catalogue en 2008. On est arrivé au bout de ce qu'on avait pu annoncer. Bon. Mais moi, personnellement, je préfère ne pas me présenter, effectivement, en tête de liste, que faire des promesses qu'on ne tiendra pas.
Alors dans la démocratie de proximité aussi, on a eu cette loi du 27 février 2002 qui obligeait donc la majorité locale de réserver une place à l'opposition dans les bulletins d'information et collectifs territoriales. Ça, c'est une bonne chose.
Alors, ça, c'est du pipeau, ça. Bon. C'est du pipeau parce qu'on vous donne un nombre de places liées à votre représentativité en nombre de mots. Je me croirais à Sud-Ouest à l'époque du passage à l'informatique. Quoi.
Oui, non,
avant que Joël parte, on avait que le maire qui pouvait faire de la géographie.
Aujourd'hui, on a aussi l'opposition, Jean-Marie, quand même.
La démocratie participative, c'est pas ça du tout. C'est la capacité que l'on a à mettre en place une co-construction avec les habitants. Alors, la co-construction, moi j'ai changé les habitudes. Sur le mandat 2001-2008, j'ai refusé le programme. J'ai fait ce que j'appelle un pacte social, citoyen et durable, signé par tous les habitants de la commune volontaire et par toutes les associations. J'ai valé des valeurs, des objectifs et des moyens. Voilà, les trois choses. Ça suffit, ça. Parce que si en 2001, par exemple en 2001, je suis élu, est-ce que je suis capable de dire dans quelle intercommunalité je serai 2 ans après quand la loi a changé ? Je ne sais pas. Elle a changé. Elle est arrivée en cours de vie.
D'ailleurs, si ça devait changer, on aurait consulté la population à ce moment-là.
Ah non, ça a été sorti par les députés et les sénateurs du texte de loi. Non, parce que moi, je suis pour le référendum d'initiative locale sur un sujet comme ça.
Justement,
si on veut rétablir la démocratie,
sur ces référendums locaux et décisionnels maintenant. Autrefois, ils étaient que consultatifs. Aujourd'hui, est-ce que vous en servez les maires ?
Moi, je m'en
ces...
suis servi pour résister contre la métropole. J'ai demandé, je répète, qu'il n'y ait pas...
Ça, c'est quand même une avancée, Jean-Marie.
On ne peut pas... Mais non.
En matière de
quand j'ai lancé le référendum d'initiative locale, j'avais fait exprès de le faire le 15 août. Parce que j'ai dit, le préfet sera en vacances. Mais ils m'ont cassé l'arrêté. Et immédiatement, ils m'ont cassé la délibération. Parce que le référendum d'initiative locale, c'est la remise en cause du pouvoir de l'État. Parce que si vous...
Donc vous avez organisé le référendum, la population a voté contre, et le préfet a cassé l'arrêté.
Parce qu'il y a un défaut dans la loi, mais les députés et les sénateurs sont malins.
Il faut le dire alors, Jean-Marie.
Alors le défaut, c'est qu'il faut 50% de participation.
La moitié de la commune, la moitié des électeurs.
Donc nous sommes 3 maires en France à avoir lancé une pétition contre de se battre contre la métropole. C'était le maire d'une toute petite commune, Sainte-Anne, de la région de Nice, le maire que j'adore, Joe Spiegler, en Alsace, et moi. On a fait ce référendum. Moins Sartou, ils ont eu 45%. Ils ont voté à 95% contre l'entrée dans la métropole.
Pareil,
le préfet dit pas de
50% de participation.
Le petit village de Sainte-Anne, ils étaient 200. Eux, ils ont voté, parce que lui, il est allé voir les électeurs un par un, donc il a eu 60% de participation. Lui, opposable. Et le maire de Créon, lui, on lui a cassé d'entrée en lui disant « Vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas sous la menace directe de la loi rentrant dans la métropole. » Donc si on veut remettre la démocratie participative, il faut dire « Sur une décision pour laquelle je n'ai pas reçu de mandat lors de l'élection, je dois revenir vous consulter. » Alors on m'objecte « Regardez ce qui se passe en Suisse, donc il y a un risque. »
Oui, oui, mais enfin, toutes les votations suisses, peut-être les thématiques, effectivement, peuvent porter à polémique. Mais c'est vrai qu'il y a une démocratie qui fonctionne pour le coup, et la population locale est, pour ainsi dire, de manière hebdomadaire, consultée.
Si on veut, comme le dit Jean-Marie, s'éloigner un peu du consommateur, il faut sûrement se servir des outils que le législateur a voulu. Et à un moment donné, il a dit ils sont là pour qu'on avance. Oui. Seulement, on le voit bien, on ne peut pas s'en servir. Alors ça, c'est quand même pas possible, quoi. Et c'est même très préoccupant.
Donc merci Jean-Marie Darmian d'avoir pointé ce défaut dans l'application finalement.
Oui, parce que dans l'état actuel des choses, si vous dites... Moi, je répète que j'étais fermement opposé à la loi sur les... Je suis toujours fermement opposé à la loi sur les métropoles. La métropole est indispensable.
Bon,
à la
ça
métropole.
A été voté. Hein.
Oui, mais d'accord, mais tout ça c'est important. Mais je demande que les gens soient consultés sur le choix qui est fait pour eux par des élus. Est-ce que j'ai le droit de lancer la commune de Créon dans la métropole de l'agglomération bordelaise, sur quels critères, à partir de quelles réflexions, quel mandat j'ai reçu Est-ce que un maire élu, là, le nouveau maire de Montussan, est-ce qu'il aura mandat pour rentrer dans la métropole ou pas y rentrer ?
Et non.
Il ne peut pas le savoir. Donc moi, je crois que c'est très important parce qu'on se discrédite vis-à-vis du site de l'habitant parce qu'on lui dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est nous qui décidons.
Alors, j'aimerais soumettre à votre analyse et puis vous me donnez votre sentiment sur quelques éléments statistiques. Je vois que c'est une mission très intéressante et le temps passe très vite, malheureusement. Quelques éléments statistiques sur les élus locaux. On va regarder évidemment ce qui concerne les maires. Alors je regardais taux de féminisation par rapport aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux et aux maires. Donc en région, on est à 48%, département à 15% et maire à 14%. Donc c'est vrai, il y a beaucoup moins de mères femmes comme finalement vous rencontrez vos collègues chaque semaine. C'est une réalité. Apparemment 14% seulement de féminisation.
Nous, déjà nous dans nos équipes municipales, il y a toujours avant la parité, il y avait toujours 30%.
D'accord.
30%. Bon, par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les défections plus nombreuses chez les dames que chez les messieurs.
C'est-à-dire défections, c'est-à-dire
pas de continuité dans la lassitude, par tout un tas de chose, et, les charges
par impossibilité. De ménage,
par impossibilité. Bon, chez nous, il y en a qui sont partis par des questions de divorce, de mutation, etc. Bon, mais c'est vrai, mais l'absentéisme, il faut quand même reconnaître que c'est plus souvent, il est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.
D'accord, ça serait pour vous la raison principale qui pourrait expliquer cette voilà. distorsion finalement.
Et aujourd'hui, on voit qu'avec l'obligation de parité, ben les équipes ont beaucoup plus de mal à choisir, à trouver des femmes que des hommes.
D'accord. Ouais. Peut-être aussi votre analyse sur la catégorie socioprofessionnelle des élus locaux. Hein. On voit les maires, donc sur 100 maires, on en a 15 qui sont agriculteurs exploitants, on en a 8 qui sont artisans, commerçants, chefs d'entreprise. On en a 15 cadres et professions intellectuelles supérieures. On en a 11 professions intermédiaires, employés 9, ouvriers 2, autres professions 4, retraités 32,4. Et donc, c'est la catégorie qui est la plus représentée. Donc, alors en fait, à la lecture de cette statistique, je m'aperçois qu'il faut quand même du temps de libre pour être maire. Alors, finalement,
effectivement, c'est presque une fonction de retraité parce qu'il faut beaucoup de temps. Moi, quand je regarde mes emplois du temps aujourd'hui, mon premier mandat, je l'ai fait tout en étant encore en activité professionnelle. Mais je me demande comment je faisais pour allier les deux, hein, quand je vois les emplois du temps que j'ai aujourd'hui. Et je dois le reconnaître, il y a beaucoup de réunions à laquelle je ne pouvais pas participer lors de mon premier mandat, auquel je vais aujourd'hui, mais ça demande énormément de temps. C'est ce que disait là Jean-Marie, ça demande beaucoup de temps, et c'est pour ça que c'est souvent les retraités qui sont
alors en deuxième position après les retraités, on retrouve à la fois les professions intellectuelles supérieures et aussi les agriculteurs exploitants. Ça représente un peu la physionomie aussi de nos territoires.
C'est la taille des communes, ouais, ça. Ouais. Non, mais moi je reviens à ce phénomène-là parce que la démocratie, ça a un prix. Quand les gens comprendront que les élus locaux ils ont une certaine sincérité dans leur engagement et qu'ils ne font pas ça pour un intérêt personnel, la démocratie aura beaucoup avancé.
D'ailleurs, on le voit avec vos deux exemples et vos deux parcours.
Mais oui, parce que vous êtes là, on est dans une situation paradoxale où le débat est tout le temps faussé sur le problème numéro un des indemnités. Faut être clair. Bon, ben moi je dis qu'un ouvrier qui est dans une entreprise
qui a à prendre en compte dans le budget de la commune d'ailleurs.
L'ouvrier qui veut être maire de Créon, je dis tout net, il ne peut pas maintenir son activité d'ouvrier dans une entreprise où on va lui demander de plus en plus de rendement, de plus en plus de présence, de plus en plus de technicité, de plus en plus de formation, et dire ben aujourd'hui, monsieur le maire, j'ai la réunion du comité Théodule et je m'en vais, voilà, je vous laisse. Et c'est un faux débat, ça, c'est un faux débat, parce que malheureusement, je me souviens en 95, quand il a fallu que je me décide à être maire, on avait fait le tour de la table, il y avait une pharmacienne qui avait dit moi j'ai d'autres sujets, un photographe qui avait dit moi j'ai mon entreprise, et à l'arrivée, eh ben, il s'est tombé sur le fonctionnaire.
La vérité, c'est qu'on n'a pas osé dans ce pays, il y a déjà 20 ans, aborder la question qu'il fallait aborder du statut de l'élu.
Mais c'est
voilà.
Toujours pas.
Hein.
C'est là, pour ça ils repartent dans le même statut que nous. Chaque fois qu'il y a un renouvellement, un gouvernement dit « on va se pencher sur le statut de l'élu ». Et chaque fois qu'on aborde le statut de l'élu, moi j'ai des mesures concrètes. Indemnité fixée nationalement, pas par les communes.
Bon, on note les mesures, Jean-Marie. Indemnité.
Mais oui, parce qu'actuellement, vous êtes maire. Claude le sait, première réunion, vous faites délibérer votre conseil sur quelle indemnité vous me donnez. Non. Donc le gars, il dit « je prends l'indemnité maximum ». Déjà,
on l'a vu même à l'échelle du président. Ben, on
partout.
Se rappelle,
donc il faut dire, c'est l'État qui fixe l'indemnité. Elle est obligatoire. Il donne l'argent aux communes pour l'exercer. C'est une première chose. Deuxièmement, le problème de la continuité de la carrière. C'est-à-dire, pendant 6 ans, il faut que la Claude l'a dit, vous mettiez votre carrière d'une manière ou d'une autre.
Pouvoir revenir à sa carrière.
C'est-à-dire, si vous, pendant 6 ans, on vous dit, vous mettez votre carrière en truc, et puis vous avez votre retraite pendant 6 ans, vous n'avez pas progressé socialement. Moi, j'étais instituteur, j'ai fini instituteur. J'aurais pu être conseiller pédagogique, j'avais les diplômes.
Après avoir écrit quelques livres, quand même.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire de cas. Mais c'est le deuxième problème. Et le troisième problème pour la féminisation, il existe, il est réel. C'est-à-dire qu'il y a le problème du temps de travail et de la place de la femme dans la société. Donc on peut, dans une commune, payer les droits de garde de l'enfant si elle vit au conseil municipal. Vous voyez la femme lever la main en disant
peut-être
ce soir,
toute dernière question.
Oui. Après les retraités, la plupart des maires, c'est des professions libérales. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas de compte à rendre, je dirais, à un patron.
Tout à fait.
Alors même si la loi, effectivement, prévoit que pour des réunions, on peut demander à son employeur des temps libres pour assister aux réunions, Oui, on peut.
Ensuite, mais, peut-être.
Mais en contrepartie, lorsqu'il y a l'avancement, après, vous n'êtes sûrement pas dans les premiers pour l'avancement.
Vraiment, dernière question. Alors, votre sentiment sur le climat actuel en France, bon, on entend beaucoup parler des montées des extrêmes, notamment l'extrême droite. On a vu avec les affaires Taubira, l'affaire Dieudonné. Comment vous l'appréhendez, vous? Est-ce que, finalement, quelles analyses, pareil, vous pouvez nous dire là-dessus? Et est-ce que ça aura finalement une répercussion sur les élections municipales?
Ah, pire que nous, dans les petites communes. Plus la commune sera petite, plus ce sentiment-là est fort. Il faut regarder la réalité. C'est un sentiment totalement abstrait. Moi, ce que je voulais dire, ce que je souhaite aux électeurs, s'ils sont lucides, c'est de refuser toutes les listes qui sont contre. Contre. Parce qu'actuellement, on assiste à un phénomène aux élections municipales. On prend une personne qui est contre l'urbanisme, une personne qui est contre la vie associative, une personne qui est contre pour l'environnement. On fait une liste. Elle est élue. Mais après, quand il faut gouverner, alors exemple Saint-Capré de Bordeaux, exemple Carignan, exemple Pompignac, exemple Sadirac, toutes les listes explosent en cours de mandat parce que le rôle d'un maire, c'est de ne pas être contre. Le rôle d'un maire, c'est de construire. C'est un instituteur même, quelqu'un qui va construire un avenir. Et s'il est contre, eh ben là, on assiste à des listes. Moi, ça m'effare. Je suis contre l'augmentation des impôts locaux, mais je vous propose de construire une école nouvelle à 4 millions. Bon, d'accord, il faudra qu'il explique.
On a déjà entendu cet exemple de Jean-Marie. Ça me dit quelque chose. Ça sera le mot de la fin, d'ailleurs.
Vous avez des gens qui sont contre, hein? Et moi, je prends un exemple, sans citer, qui sont contre l'urbanisme, par exemple, hein, contre l'augmentation de population.
Surtout quand ils ont construit leur maison.
Montussan est une commune, effectivement, qui a progressé au niveau population, parce qu'on a construit. Hein. Bon, donc on est contre l'urbanisation. Mais ce sont les mêmes personnes qui, dans le cadre du PLU, ont demandé quand même ce que des terrains en terre agricole passent en terre constructible, quand même. Hein. Et c'est eux-mêmes qui vendent les terrains.
Bon, alors faites attention, ouvrez bien vos oreilles, observez bien, allez dans les réunions publiques, débattez, informez-vous.
Vous avez des gens qui sont contre l'urbanisation, mais ils sont mécontents d'habiter des logements neufs.
Bon, plus d'informations sur le site www.intérieur.gouv.fr, évidemment, rubrique élections. On remercie vous, messieurs, évidemment, le maire de Montussan, Claude Arnato, et le maire de Créon, Jean-Marie Darmian, d'avoir bien voulu accepter notre invitation, répondre à nos questions. On remercie les quatre médias, donc Hugo Hamès pour Le Courrier de Gironde, Joël Aubert pour Acquis.fr, Jacques Brunet pour L'Écho des Collines. Merci encore, à très bientôt, messieurs. Et bonne élection municipale à tous.
Hein, voilà. Merci à vous. You